Introduit bien à ce que nous allons partager ce soir sur les deux premières demandes du Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc hier j'ai commenté l'introduction, enfin le contexte du Notre Père, et puis l'invocation, hein, Notre Père qui es aux cieux, cette invocation donc, qui nous tourne vers le Père céleste, et qui nous fait entrer en relation avec lui, et puis qui nous ouvre en même temps à nos frères, hein, avec cette dimension universelle, notre Père. Voilà, il n'y a pas de limite à ce nôtre. Et tout de suite, voilà ce Père bienveillant, eh bien, on lui fait des demandes. Et donc la prière de notre Père est une prière de demande. Et on pourrait se poser la question, mais est-ce qu'il faut demander à un Père qui nous aime? Voilà. Est-ce que la demande n'est pas une forme de doute? Jésus dit, ne rabâche, juste avant le Notre Père, hein, dans Matthieu, « Ne rabâchez pas comme les païens, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. » Donc, a priori, on n'aurait pas besoin de demander à Dieu puisqu'il sait ce dont nous avons besoin. Donc il ne s'agit jamais d'informer Dieu de nos besoins, mais en fait la demande exprime une relation de confiance. Demander, donner, recevoir, ça crée une relation de réciprocité entre les personnes. Voilà. Et demander en fait à Dieu, c'est entrer dans une collaboration avec lui. C'est-à-dire c'est vouloir accueillir ce qu'il nous donne, ce qui est bon pour nous et en faire quelque chose. Donc, on a entendu aussi hier, là, après le Notre Père chez Saint-Luc, voilà, Jésus dit, ben, votre Père vous donnera de bonnes choses. Donc, c'est un appel à la confiance. Alors, il y a deux parties, hein, deux types de demandes. Il y a des demandes qui sont en « tu » dans le Notre Père, les trois premières, et ensuite des demandes qui sont en « nous ». « Donne-nous, pardonne-nous ». Et ici, donc, on est dans la première partie, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Cette première partie est encadrée par les mots « cieux » et « ciel ». Donc, notre Père qui est aux cieux, et à la fin, sur la terre, comme au ciel. Donc, vous voyez, on est tourné vers le Père du ciel, vraiment, dans cette première partie. Hein. Voilà, on se détourne finalement de nos propres intérêts pour s'intéresser au désir de Dieu, à la volonté de Dieu. Mais à la fin, on a sur la terre comme au ciel, donc on va aussi être amené à ce qui est terrestre, et la deuxième partie, effectivement, du Notre Père sera vraiment plus terrestre. Elle s'intéressera à nos besoins terrestres. Donc, voilà, il y a un décentrement à vivre de nous-mêmes pour se centrer sur notre coopération au projet de Dieu. Et d'une certaine manière, le Notre Père, c'est une participation vraiment à la prière de Jésus. Hier, je vous ai dit qu'on pouvait, voilà, on pouvait faire l'hypothèse qu'une manière dont on peut retrouver la prière de Jésus, c'est que Jésus priait avec ces mots « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » La lettre aux Hébreux évoque cette prière de Jésus. Je vous ai mis ce premier texte, hein. Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit avec un grand cri et des larmes les prières et les supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel, car Dieu l'a proclamé grand prêtre de l'ordre de Melchisédek. Alors c'est un texte un peu complexe, hein, mais en fait qui nous dit vraiment que voilà, Jésus offre au Père sa prière. Alors on peut penser à la prière de Gethsémani, et il est exaucé, non pas en échappant à la mort, mais finalement en devenant obéissant jusqu'à la mort, et ainsi il devient la cause de notre salut. Donc le fruit de la prière finalement de Jésus, c'est son obéissance. Alors, la première demande demande donc que ton nom soit sanctifié. Alors, dans la Bible, le nom a une grande importance. On ne doit pas prononcer le nom de Dieu sans raison, parce que le nom, c'est la personne elle-même. Et donc, le nom de Dieu, il est sacré. Vous savez qu'il y a le tétragramme dans l'Ancien Testament qu'on ne prononce pas, le nom que Dieu a révélé à Moïse. Ce nom, il est donc révélé au buisson ardent, donc Exode 3. Hein. Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, celui qui m'a envoyé c'est vers vous, c'est « Je suis ». Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours, c'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Donc vous voyez, c'est un nom qui n'est pas un nom, en fait c'est un nom qui renvoie à l'être. L'être de Dieu, c'est d'être. Et en même temps, c'est un être qui rentre en relation. Le nom de Dieu, c'est qu'il est en relation avec des personnes, donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de vos pères. Et donc, c'est quand même le Dieu qui parle, finalement. Donc, c'est à la fois l'être en lui-même, il a cet être, un être qui demeure et puis en même temps qui se manifeste. Mais ça interdira évidemment l'idolâtrie, parce que idolâtrie, représenter Dieu, en faire une statue, une idole, voilà, ça serait vouloir le contrôler. Donc on ne peut pas mettre la main sur le nom de Dieu, sur l'être de Dieu. Mais en même temps, le peuple devient porteur du nom. En Deutéronome 28, hein, « Le Seigneur t'établira pour lui, peuple consacré, comme il te l'a juré, car tu garderas les commandements du Seigneur ton Dieu, tu suivras ses chemins. Tous les peuples de la terre verront que le nom du Seigneur est proclamé sur toi et ils auront peur de toi. » Donc que le nom du Seigneur soit proclamé sur le peuple, ça veut dire que Dieu a fait alliance avec ce peuple. Et donc le peuple, il est porteur de ce nom de Dieu. Et vous savez que Israël, c'est le nom qui est donné par l'ange à Jacob après le combat de Jacob, et Israël, ça veut dire qui est comme Dieu. Voilà. Donc il porte le nom de Dieu. El, en hébreu, c'est Elohim, et donc c'est le Seigneur. Donc cette sainteté de Dieu, normalement, elle devrait être manifestée par les hommes, par le peuple choisi. Voilà. Par Dieu, le peuple élu, le peuple avec qui Dieu a fait alliance. Mais finalement, on va voir que dans l'histoire, cette sainteté, elle n'est pas que ton nom soit sanctifié, donc elle n'est pas reconnue, elle n'est pas glorifiée, elle n'est pas respectée, et donc c'est Dieu lui-même qui va devoir manifester la sainteté de son nom. Et en fait, quand on dit « que ton nom soit sanctifié », ça veut dire « sanctifie ton nom ». On demande à Dieu de sanctifier son nom. Ces trois premières demandes, hein, « que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite », elles sont au passif, c'est-à-dire c'est quel est le sujet qui va accomplir la volonté de Dieu, qui va sanctifier le nom, qui va faire venir le règne. Eh bien, voilà, c'est d'abord Dieu. L'acteur, sanctifie ton nom, fais venir ton règne, on pourrait lui demander. Donc c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Et donc on demande en fait que Dieu accomplisse son œuvre. Je demande à Dieu d'accomplir son œuvre. Et pour ça, évidemment, ça veut dire que je vais aussi la conséquence, c'est voilà, que je vais me mettre aussi au service de cette sanctification. Donc que ton nom soit sanctifié par toi, ça c'est ce que je demande d'abord à Dieu. Mais voilà, aussi, ben, je porte aussi cette responsabilité ensuite. Mais effectivement, la promesse de Dieu, c'est qu'il va sanctifier son nom. Et on pourrait dire que ton nom soit sanctifié finalement sur la terre comme au ciel, parce qu'au ciel, le nom de Dieu est sanctifié. Alors, je vous ai mis deux références pour évoquer cette sanctification du nom au ciel. Donc, il est pleinement reconnu comme la source de toute sainteté. C'est Isaïe, c'est l'apparition d'Isaïe, la vocation d'Isaïe, hein, au début du chapitre, au début du livre d'Isaïe, au chapitre 6, où Isaïe a une vision de Dieu dans son temple. C'est une vision très grandiose, hein, où voilà, il voit le trône de Dieu entouré par les séraphins. Donc, les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. » Voilà. Donc, c'est le Sanctus, hein, c'est ce qu'on chante à chaque messe. Hein, et donc, cette triple saint, il est 3 fois saint, parce que c'est la Trinité aussi qui est glorifiée, hein. Nous nous y associons dans l'Eucharistie. En fait, on va communier, lorsqu'on chante le Sanctus, au chant des séraphins, au ciel. Donc, il y a toujours un lien, alors qu'on exprime aussi à la fin de la préface avec tous les anges et tous les saints, nous chantons Saint, 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 le Seigneur, mais il y a un lien entre la liturgie terrestre et la liturgie céleste. Donc que ton nom soit sanctifié, il l'est déjà par les vivants, les séraphins, les anges, et bien aussi dans l'Apocalypse, les 4 vivants ont chacun 6 ailes, avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans, jour et nuit, il ne cesse de dire « Saint, 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 le Seigneur, Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. » Donc, il y a la reprise, vous voyez, à la fin de la Bible, du Sanctus d'Isaïe. Et donc, il faudrait que nous soyons capables, finalement, dans notre vie, de sanctifier le nom de Dieu comme, voilà, il est sanctifié au ciel. En fait, on peut considérer que la finale de la troisième demande, hein, sur la terre comme au ciel, elle concerne les deux premières demandes également. C'est que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puisque le but, c'est que voilà, tout cela puisse advenir aussi voilà, sur la terre. Mais malheureusement, on en est loin. Et en même, le peuple que Dieu a choisi en est loin. Et alors, peut-être le plus beau commentaire qu'on peut faire de cette demande du Notre Père, de cette première demande, que ton nom soit sanctifié, c'est le chapitre 36 d'Ézéchiel. C'est un des textes qui est lu à la veillée pascale. C'est une des 7 lectures de l'Ancien Testament de la veillée pascale, ce chapitre 36. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai déversé sur eux ma fureur à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qu'ils avaient rendues impures. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom en disant, car on disait, c'est le peuple du Seigneur et ils sont partis de son pays. Ils sont sortis de son pays. Voilà. Donc, ce qu'a fait le peuple, vous voyez, c'est de profaner le nom de Dieu. Alors, d'abord dans leur propre terre, à cause du sang, à cause des idoles, et puis ensuite, même dans les nations, quand elles sont dispersées, eh bien, elles continuent à se conduire de la même manière. Finalement, donc, c'est l'infidélité de ce peuple que Dieu veut punir, que Dieu a puni, mais ça ne le corrige pas. On a l'impression qu'il n'y a pas de solution, parce que le nom continue, quoi qu'il arrive, dans l'histoire de ce peuple, d'être profané. Alors, Dieu va décider d'agir, en fait. Il ne se contente pas de ce constat. Donc, verset 21, « Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, afin que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu, Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Donc Dieu décide d'agir. Voilà. Il ne se contente pas mais de s'attrister hein, et de regretter l'infidélité, mais il va lui-même donc, sanctifier son nom. Donc, en fait, là, il va répondre à la demande finalement que nous faisons dans notre Père, sanctifie ton propre nom, que toi tu sanctifies ton nom, c'est ce qu'il fait. Donc c'est son action de salut, c'est que malgré les infidélités du peuple, le nom de Dieu puisse être reconnu comme saint au milieu des hommes. Alors comment va-t-il agir? Comment va-t-il le faire en fait? De quelle manière c'est possible que ce nom soit sanctifié alors qu'il est profané? Bien, la suite nous le dit. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Donc, la manière, voyez, dont Dieu agit pour sanctifier son nom, c'est de ne pas tenir compte de l'infidélité du peuple, mais de lui pardonner et de le transformer. Il dit, voilà, je vais verser sur une eau pure, voilà, vous purifier, vous donner un cœur nouveau, transformer votre cœur, vous rendre finalement un cœur capable d'aimer et de sanctifier alors que vous n'avez pas été capable de le faire. Donc la sainteté de Dieu, de son nom, elle ne se manifeste pas seulement par lui-même, elle se manifeste finalement dans le peuple qu'il va convertir hein, et qu'il va venir chercher, il va venir le rechercher, le ramener à lui sur la terre, mais surtout voilà, le transformer intérieurement. Et donc, on peut lire évidemment ici une annonce du baptême. « Je verserai sur vous une eau pure, vous serez purifiés. » Voilà, le baptême qui nous purifie et qui nous tourne vers Dieu. Et qui nous rend capables, finalement, c'est le baptême par l'esprit que nous recevons. « Je mettrai en vous mon esprit. » Donc, par l'esprit que nous recevons, nous devenons capables de sanctifier le nom de Dieu. Alors, évidemment, pour les chrétiens, cela va s'accomplir par Jésus. Et en fait, les premiers chrétiens, ils ont compris effectivement que c'est Jésus qui a pleinement accompli cet oracle d'Ézéchiel. Donc c'est pour ça qu'on lit l'oracle d'Ézéchiel à la veillée pascale, voilà, au cœur de l'année liturgique, parce que celui qui peut sanctifier le nom de Dieu et celui qui peut donner un cœur nouveau, c'est le Christ Jésus, voilà, qui est au milieu des hommes, qui est celui qui a manifesté en fait la sainteté de Dieu. Et on pourrait dire que toute la vie de Jésus, en fait, elle a une réponse à la question « Quel est le nom de Dieu ?» Voilà, qui est Dieu ? Ben, Dieu est Père, bien sûr. Hein. Il n'y a pas de plus haute révélation que ce nom de Père, Abba. Et on pourrait dire que c'est toute la mission de Jésus que le nom de Père soit connu et reconnu. Et donc, voilà, le Père veut réduire, finalement, Jésus veut réduire la distance qui existe entre notre compréhension de Dieu, qui s'est souvent faussée, et la vérité de Dieu. À la fin de l'évangile de Jean, dans sa dernière prière, Jean 17, il résume ainsi la mission qu'il a remplie. « Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire, et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Voilà. Je t'ai glorifié. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, je t'ai fait connaître, j'ai rendu glorieux ton nom. J'ai fait connaître ton nom, et c'est ce qu'il dit juste en dessous, j'ai manifesté ton nom. Donc finalement, peut-être que nous pouvons vraiment résumer la mission de Jésus et la mission de l'Église, des disciples, par cette formule, sanctifier le nom de Dieu, qui peut se faire simplement par une vie sainte, vraiment par une vie dans la lumière de Dieu. Et on peut évoquer dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, quand Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde », il termine en disant « De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux ». C'est-à-dire ils sanctifieront Dieu. Ils reconnaîtront en fait que la sainteté vient de lui. Donc ça, c'est vraiment le but de l'existence du chrétien, de sa mission, c'est sa mission. Alors, je vous propose maintenant de passer à la deuxième demande, que ton règne vienne. Alors, on pourrait traduire le mot grec aussi bien par « règne » que par « royaume ». C'est le même mot, et les deux traductions sont possibles et discutées. Dans l'Ancien Testament, la notion de règne est déjà présente. Le peuple de Dieu, il est sous le règne de Dieu, il annonce en fait que Dieu règne. Alors je vous ai mis le prophète Isaïe, Isaïe 52, « Eh bien, mon peuple saura quel est mon nom. Oui, ce jour-là, il saura que c'est moi-même qui dis « Me voici ». Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et qui vient dire à Sion, « Il règne ton Dieu ». Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix, tous ensemble, ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion, éclater en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Ce qui est très intéressant dans ce passage, pour le Notre Père, vous voyez, c'est qu'on a juste après, on a juste en même temps, le nom de Dieu, ils sauront connaître mon nom, donc mon nom sera sanctifié, et il règne le Seigneur ton Dieu, l'annonce du règne. Donc le nom et le règne sont conjoints ici, comme dans le Notre Père, dans cette prophétie d'Isaïe. Et puis on a dans les psaumes, alors beaucoup d'annonces vraiment fréquentes de la venue du règne. Donc je vous ai mis quelques citations parmi d'autres. Psaume 92, « Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force, et la terre tient bon, inébranlable. » Dès l'origine, ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Psaume 95, allez dire aux nations, le Seigneur est roi, le monde inébranlable tient bon, il gouverne les peuples avec droiture. 96, le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Donc c'est comme une vision, ça rejoint un peu la vision d'Isaïe. Psaume 98, le Seigneur est roi, les peuples s'agitent, il trône au-dessus des kéroubim, la terre tremble. En Sion, le Seigneur est grand, c'est lui qui domine tous les peuples, il proclame ton nom grand et redoutable, car il est saint. Voilà, donc s'il y a cette proclamation, cette vision, c'est souvent une sorte de vision, finalement une vision du ciel, de la royauté de Dieu, mais par contre on ne trouve pas dans tout l'Ancien Testament la formule « que ton règne vienne ». Donc cette formule de notre Père, elle est propre à Jésus et au Nouveau Testament. Dans les évangiles, donc, l'annonce du règne, elle est centrale. Jésus commence la proclamation de l'évangile en annonçant la proximité du règne de Dieu. Donc Marc chapitre 1, sa première prédication, après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Alors on pourrait souligner trois caractéristiques de ce règne de Dieu pour Jésus, en tout cas dans la bouche de Jésus. Comment est-ce que Jésus comprend le règne de Dieu ? Le premier élément, c'est que c'est un règne qui ne vient pas par la violence, qui ne vient pas par la puissance humaine. Il n'a rien à voir donc avec le nationalisme exacerbé qui veut la victoire des uns contre les autres et la défaite des autres. Donc ce n'est pas un règne selon les critères du monde, comme Jésus le dit à Pilate. Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Voilà, c'est un règne qui a un rapport alors avec la vérité, comme Jésus le dit. Ensuite, Pilate lui dit, alors tu es roi. Jésus répondit, c'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Donc ça, c'est une première caractéristique. C'est un règne, vous voyez, qui échappe tout à fait au conditionnement politique, au raisonnement humain. Voilà, le règne de Dieu ne peut pas venir à la manière d'un royaume humain avec une puissance qui s'imposerait de l'extérieur. Une deuxième caractéristique, c'est que c'est un règne universel. C'est sa dimension universelle, l'ouverture à tous, sans discrimination. Et dans les nombreuses paraboles du royaume de Dieu, on a par exemple l'arbre qui va abriter tous les oiseaux du ciel, Luc 13, 19. Ou bien le filet qui ramène toutes sortes de poissons, toutes sortes de choses, voilà, Matthieu 13. Ou un banquet où sont invités même les pauvres et les handicapés, Luc chapitre 14. Donc il n'y a pas d'élitisme dans le royaume de Dieu. Voilà, c'est un règne où tous y trouvent leur place et même où les pauvres sont premiers. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Voilà, dit Jésus, première des béatitudes. Donc ça commence comme ça, les béatitudes, c'est le royaume des cieux est aux pauvres. Et je vous ai mis aussi donc la béatitude équivalente chez saint Luc. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Donc voilà, l'universalité du règne. Et puis, troisième caractéristique de ce royaume, c'est qu'il est tout proche. Il est à la porte. Et en même temps, il est une réalité future. Voilà, il est à venir et on ne sait ni le jour ni l'heure. Voilà. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, dit Jésus. Seul le Père peut le faire advenir en un temps et par des moyens qui seront les siens. Donc c'est Dieu qui fait advenir son règne. Ce n'est pas à la portée de l'homme de faire venir le règne de Dieu. Et en même temps, il est tout proche. Voilà, il a commencé le règne de Dieu, il a commencé avec la venue de Jésus. Jésus, il manifeste déjà la présence de Dieu au milieu des hommes. Il est une réalité invisible, une présence invisible, mais qui déjà transforme le monde, comme le levain dans la pâte. Matthieu 13, il leur dit une autre parabole, « Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans trois mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. » Luc 11, en revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Et au chapitre 17, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit « La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas « Voilà, il est ici » ou bien « Il est là ». En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. » Donc le règne de Dieu est déjà là, en même temps il est encore à venir. Il est au milieu de vous, on pourrait aussi traduire « au-dedans de vous ». Le terme grec le permet. Hein. Voilà. Donc Jésus, il considère en fait que le règne de Dieu, il arrive par son action. Voilà, que le salut est déjà à l'œuvre, s'accomplit. Et donc lorsque Jésus chasse les démons, eh bien c'est que le doigt de Dieu agit pour faire venir son règne. Mais vous voyez, il n'est pas observable. C'est quelque chose qui apparaît de manière cachée, mystérieuse, mais bien réelle. Ce n'est pas un objet, hein. Le règne de Dieu, ce n'est pas un objet qui est en train de se développer, mais c'est vraiment l'œuvre de Dieu dans le monde. Alors, quel est le sens pour nous que nous pouvons donner à cette demande « Que ton règne vienne ?» En fait, on pourrait dire qu'il s'agit que le règne de Dieu s'étendent et gagnent de plus en plus les profondeurs de l'être humain et la vie humaine. Saint Ambroise disait « Le royaume de Dieu est venu quand vous avez reçu sa grâce. Il dit lui-même en effet « Le royaume de Dieu est en vous ». En demandant que vienne le règne, on demande aussi en fait que la lutte finalement se poursuive d'âge en âge contre tout ce qui empêche les hommes d'être à Dieu et d'être libres. Donc on demande que la lutte se poursuive contre la servitude, la misère, la souffrance des hommes et que la dignité de tout homme puisse être reconnue. Le règne de Dieu serait un règne où tous ses enfants auraient la même place, la même égalité. Mais on sait que le règne de Dieu ne sera pas pleinement accompli dans l'histoire, parce que malheureusement, dans l'histoire, il y a en même temps les progrès du mal et les progrès du bien. Mais finalement, le chrétien, il s'engage en demandant, en priant à contribuer au bien commun de l'humanité sur la terre, sans oublier pour autant que le règne de Dieu n'est pas le fruit de nos œuvres. Mais la force de Dieu est là pour nous pousser à travailler pour le service de nos frères. Alors je vous propose quelques questions et réflexions pour la prière. Donc, quel est le nom ? Je demande que ton nom soit sanctifié. Quel est le nom que je donne à Dieu dans ma prière? Qu'est-ce que cela dit de ma relation avec lui? Comment est-ce que ma vie peut sanctifier le nom de Dieu? Où est-ce que je reconnais la sainteté de Dieu? Qu'est-ce que c'est que pour moi la sainteté de Dieu? Est-ce que je désire vraiment que son règne arrive lorsque je dis le Notre Père? Comment je peux reconnaître aussi que le règne de Dieu est parmi nous? Est-ce que par rapport à ce que j'ai dit là ce soir, vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas comprises, des besoins d'éclaircissement? Je vous propose, si tout est assez clair, de prendre 5 minutes de prière personnelle. Et puis ce soir, je vous propose de ce qu'on n'a pas fait hier, mais on va prendre ensuite un petit temps de partage sur comment est-ce que j'entends ces demandes et comment est-ce que moi je me sens de les prier. qu'est-ce qui m'inspire finalement dans ces deux demandes du Notre Père, hein, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.